Radio Kaléidoscope 97 FM présente Au ras des rues, l'émission qui prend de la hauteur.
Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs. Je suis Yannick et je vous souhaite la bienvenue à l'écoute de l'émission Au ras des rues, qui traite de l'actualité et du quotidien tel qu'on les vit dans les quartiers sud de Grenoble, notamment le village olympique et la Villeneuve. Vous êtes bien sûr sur les ondes de Radio Kaléidoscope 97 FM, une radio nichée au cœur du village olympique, l'un de ces quartiers qui nous sont chers, qui nous inspirent et où l'on essaie, comme le générique l'indique, de prendre de la hauteur. Ce soir, l'équipe d'animation en studio est relativement restreinte. Elle est composée de Marie-France et de moi-même.
Bonjour.
Bonjour Marie-France. La régie technique est assurée par Gaël, merci à lui, et notre invité est le docteur Philippe Pichon du centre de santé de l'Arlequin et plus généralement de l'AGEXA, l'association de gestion des centres de santé.
Bonsoir à tous.
Merci. On décrira un peu plus loin ce qu'est l'AGEXA en détail et on décrira aussi pourquoi on la reçoit en ce moment, parce qu'il y a un contexte particulier de réduction des subventions, on pourrait le synthétiser comme ça. Au préalable, je précise comme d'habitude que vous pouvez retrouver le podcast de l'émission avec ceux des précédentes sur le site web du Crieur de la Villeneuve, www.lecrieur.net. Si vous voulez nous contacter, nous proposer une participation, vous pouvez le faire par mail sur auraderues@lecrieur.net, tout en minuscules, tout attaché, ou sur Facebook sur auraderues-rks97fm. Au sommaire de cette émission, qui sera largement consacrée à l'actualité et le quotidien des centres de l'AGEXA, nous aurons d'autre part des éléments d'agenda du village olympique ainsi que de la Villeneuve. Au village olympique, on parlera notamment de ce qui se passe autour après l'incendie du squat.
Les sinistrés du squat.
Oui, les sinistrés du squat dans la résidence du Crous, squat qui existait depuis plusieurs années. Et nous écouterons également une riche interview qui a été faite par l'équipe de radiophonique des collégiens de la Villeneuve. Je vais t'inviter à commencer avec l'agenda du village olympique.
Alors, l'agenda du village olympique, il y a des choses qui se recoupent avec la Villeneuve pour certaines activités, en particulier celle du pôle d'animation gérontologique et intergénérationnelle, c'est comme ça qu'il s'appelle, sur les deux quartiers, et qui propose des ateliers cuisine, même un thé dansant, du chant, et aussi des activités de prévention, notamment des marches au parc, une fois par semaine, dans le parc Verlac. Pour tout ça, on se renseigne à la Maison des Habitants Prémol au 04 76 09 00 28. Le mercredi 19 avril, à la Maison des Habitants Prémol, donc il y aura une après-midi de jeu où parents, enfants, tout le monde est invité, petits et grands. Ce sera de 14 à 17 heures à la Maison des Habitants, c'est un moment de convivialité autour des jeux qui seront proposés. Voilà, on amène son goûter et on le partage. Ce sera le mercredi 19 avril. On avait déjà évoqué les choses qui se préparent autour des 50 ans des Jeux Olympiques de Grenoble, 50e anniversaire des Jeux Olympiques de 68. L'association Histoire 2 est en train de préparer un jeu de société autour de ce thème. Elle a déjà proposé des ateliers, réuni des témoignages, etc. Et dans les prochains qui auront lieu, ce sera le vendredi 24 à 14h. Il propose un rendez-vous à l'arrêt de tram Arlequin pour un parcours ludique et culturel autour de ce thème des Jeux Olympiques. Et puis le samedi 25 à 14h, salle 150 de l'Arlequin, en face de la maison de quartier, il y aura l'atelier d'écriture finale, j'allais dire, et la création de ce jeu. On a déjà eu l'occasion d'utiliser des jeux que cette association a fait autour de nos quartiers, Villeneuve, Village Olympique, Vigny-Musset, C'est une espèce de jeu de société qu'ils vont créer pour cette occasion. Voilà, donc tous les renseignements sur ces activités peuvent être retrouvés à la Maison des Habitants au 04 76 09 00 28. Voilà, il n'y avait pas une exposition à Villeneuve ?
C'est exactement ça. Il y a, concernant la Villeneuve, il y a un autre fait d'actualité qui nous a été rappelé par notre propre invité. Donc merci. On vous invite à venir voir l'exposition de peinture et de céramique de Yannick Leder. On vous invite au Baratin. L'exposition est à voir jusqu'au 17 mai, le vernissage ayant lieu le 5 mai à 18h, mais vous pouvez déjà aller voir l'exposition dès à présent. Yannick Leder, c'est l'un des nombreux artistes qui enregistrent la vie de nos quartiers. C'est un artiste singulier, peintre et céramiste, habitant du quartier de la Villeneuve. Ses créations nous font voyager dans un univers aux couleurs à l'état brut, chaude et fluorescente. Ses tableaux nous emmènent dans une rue, dans une atmosphère onirique. Voilà, on va enchaîner avec ce qui se passe pour les personnes qui étaient habitantes du squat.
Voilà, donc on essaye de faire le point sur les sinistrés. C'est pas toujours, c'est pas facile parce qu'ils ont été dispersés. Donc je rappelle qu'il y a eu un incendie, sauf erreur, je pense que c'est le 15 mars, dans un squat qui était dans un bâtiment du Crous, donc une ancienne résidence étudiante sur le village olympique. Et qui était squatté depuis 4 ans, et ça se passait plutôt bien. Il y avait essentiellement des migrants de la Corne de l'Afrique, donc Soudan, Érythrée et Éthiopie, du Tchad aussi, quelques Afghans. Au total, 76 personnes, dont quelques enfants et quelques femmes. Il y a eu 18 victimes, dont une assez grave. Ils ont été accueillis d'abord en urgence donc au gymnase d'Audet, qui est sur le quartier des Alpins, et pris en charge par le CCAS et par la Croix-Rouge. Et certains ensuite ont été conduits au centre départemental de la jeunesse d'Autran, qui appartient à la Ligue de l'enseignement. Ceux-ci étaient demandeurs d'asile en situation régulière, et 4 avaient déjà un statut, donc ils ont été installés, ils ont été en foyer. Les autres qui étaient en situation irrégulière, c'est à peu près la moitié, hein, 36 ou 34, ont été dispersés dans des hôtels sur Grenoble. Un certain nombre sont orientés vers des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les CADA, avec l'inconvénient que certains sont éloignés et même hors de la région, ce qui les isole. Eux souhaiteraient évidemment être... De très loin, la solution de pouvoir rester ensemble. Certains se sont retrouvés dans un squat rue Auguste Gachet, au centre-ville, qui, aux dernières nouvelles, a été évacué par la police. Voilà.
Ce qu'on peut préciser en complément, c'est que les personnes de ces pays, précisément qui se retrouvent en situation irrégulière, dont la demande d'asile a été refusée, la France a l'interdiction d'expulser au Soudan ou en Érythrée, par exemple, vu l'état des gouvernements.
La situation politique, oui.
Et le danger qu'il y aurait immédiat sur leur sûreté.
Voilà. J'allais rajouter que, après, parce que ça concerne quand même notre quartier, hein, ils se sentaient membres du village olympique. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec certains. Et donc, après s'être renseignés sur leurs besoins, l'union de quartier avait lancé une collecte, essentiellement produits d'hygiène ou vêtements. Et il y aura une permanence d'accueil pour la répartition de la collecte, ce qui est une façon aussi pour eux de rester en contact avec le quartier. Et pour les gens du quartier, de prendre conscience un peu de ce qui se passait sur leur quartier. Voilà. Ceux qui sont allés à Autran, on a eu quelques échos. Et il semble qu'il y ait une bonne mobilisation des habitants autour pour faire de la cuisine, faire des cours de français, etc. Des animations diverses. On peut signaler que FR3, pour le rendez-vous qu'on avait eu à l'Union de quartier pour la collecte, avait même fait un petit sujet qui était passé dans un reportage de l'édition du 19 mars, du 19-20 plutôt, c'est comme ça qu'elle s'appelle, le 25 mars dernier. Voilà. Et donc on essaye de rester en contact.
Donc pour nos auditrices et auditeurs qui voudraient participer à la collecte, il faut s'adresser à l'Union de quartier Vigny-Musset, Village Olympique.
Voilà.
Ok. Bon, je vais faire une transition avec cette première pause musicale. une chanson qui est apparue déjà il y a 40 ans, mais qui est dans la même thématique, une ode aux migrations et au cosmopolitisme populaire. En ces temps où on entend beaucoup de n'importe quoi à ces sujets, ça fait du bien rien que de réécouter ce refrain que je recite. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily, elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'immigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit de Lily de Pierre Perret. Je vous laisse méditer sur ces sages et lucides paroles en écoutant une version particulière, une collective, une bigarrée, chantée avec le groupe des Ogres de Barbac en 2004.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut un noir pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier du secret temps lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs.
La décharge des cajons, Lily. Elle s'est tapée des sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aimait un beau blond frisé, Lily, qui était tout prêt à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on ne veut pas de ça chez nous.
Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Et dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point majeur, Lily. Au milieu de tous ces guigus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur.
Mais dans ton combat quotidien, Lily,
tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Aura des rues sur Radio Kaleidoscope 97 FM. On va enchaîner avec la rubrique consacrée au travail de l'atelier des collégiens de la Villeneuve, qui pour cette fois ont interviewé l'une des nombreuses personnes qui a grandi à la Villeneuve, a passé son collège là-bas et qui est ensuite parti tout en gardant de très beaux souvenirs. On vous laisse découvrir cet enregistrement.
Bonjour, vous êtes sur Radio Villeneuve. Aujourd'hui, notre invitée du jour est Soukaina Larabi, ancienne élève du collège du Céobrac qui vient de terminer des études en droit. Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous dire quel est votre lien avec le quartier ?
Alors, du coup, j'ai grandi ici, je suis allée à l'école ici, c'était l'école des Charmes qui est du coup fermée maintenant, et j'ai fait tout mon collège ici.
Pouvez-vous nous décrire votre parcours ?
Alors, du coup, après le collège, je suis allée au lycée, j'ai fait une première et une terminale littéraire, et après, je suis allée à la fac en faculté de droit. Et je viens de finir, du coup, mes études en droit public et administration territoriale.
Quel souvenir vous avez du quartier et du collège ?
Eh ben, j'ai beaucoup de bons souvenirs, pour le coup, plus que de mauvais souvenirs. Forcément, quand on est au collège, c'est un peu... nous, en tout cas, à l'époque, c'était vraiment une grosse liberté. On pouvait monter plein de projets, faire plein de choses. C'était assez génial. Et aux alentours de juin, on avait tout le temps le festival Quartier Libre. Et du coup, en général, on sortait avec nos copains et tout. C'est toujours le grand moment... Enfin, plein de bons souvenirs du coup liés à ça.
Maintenant, vous avez déménagé. Est-ce que vous entendez des mauvaises choses sur le quartier?
Alors, je pense qu'on en a toujours entendu, même quand j'étais déjà là. C'est vrai que c'est dommage parce que les gens, une fois qu'ils entrent dans le quartier et qu'ils connaissent un peu, plus personne ne reste sur ce préjugé qu'ils avaient pu avoir avant. Et surtout que l'idée de Villeneuve, ça reste quand même une belle idée. Donc, il y en a encore. Et je pense qu'il faut continuer à les combattre, mais que c'est pas une fatalité.
Et du coup, vous faisiez beaucoup de sorties au collège Lucie Aubrac?
Bah, on en a fait pas mal, ouais. On a des bons souvenirs de voyages, y compris à l'étranger. On est allé en Angleterre, à Barcelone. On nous a même fait visiter le grand stade de foot du FC Barcelone. Donc ouais, c'était assez sympa. On a fait pas mal de sorties cool, ouais.
Et maintenant, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Bah, du coup, je suis étudiante encore. Je viens de finir et je prépare les concours de la fonction publique.
Vous pouvez nous expliquer ce que c'est la fonction publique?
Alors, la fonction publique, c'est les gens, les individus qui travaillent pour soit l'État, soit ce qu'on appelle les collectivités territoriales, et qui du coup font en sorte que les politiques décidées se mettent en place et s'occupent par exemple de la bibliothèque, de l'école, vos professeurs sont de la fonction publique, voilà.
Dans le cadre de la semaine de la presse, dont le thème est « D'où vient l'info ?», nous souhaiterons savoir comment vous vous informez par les journaux, par la revue ou les réseaux sociaux.
Alors, un peu de tout. C'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, on a pas mal d'informations qui arrivent très vite, du coup, qui est souvent pas vérifiée. Donc, quand il y a un truc qui me paraît un peu bizarre ou un truc très très fort, en général, j'essaye de regarder soit dans les journaux, c'est hyper important, je pense, de croiser les informations à chaque fois et de vérifier et de voir surtout d'où elle vient. Quand il n'y a pas de source en général, c'est plutôt un mauvais plan.
Donc, vous nous avez dit que vous étiez étudiante. Vous pouvez nous raconter une journée d'une étudiante?
Une journée type d'étudiante, on a des cours du coup, hein, comme vous, toute la journée en général, et on a aussi encore, je suis désolée de vous le dire, on a encore des devoirs, donc faut rentrer, faut réviser ses cours, le relire, rédiger souvent des rédactions, ce genre de choses, et après, comme du coup on est un peu plus âgé, effectivement on peut sortir un peu voir ses potes le soir, c'est plutôt sympa.
Quel conseil donneriez-vous à des jeunes qui souhaitent faire le même travail que vous?
Et de s'accrocher, parce que des fois c'est un petit peu rude, je pense, mais qu'à partir du moment où on a envie de faire les choses et qu'on les fait bien, tout va bien, tout se passe bien.
Pouvez-vous en quelques mots nous expliquer en quoi consistent les études de droit?
Les études de droit, vaste sujet. Le droit est regroupé en plusieurs sections, en fait. Donc, on apprend un peu au début les fondamentaux, ce qu'on appelle le droit civil, le droit européen aussi. On apprend comment fonctionne l'Union européenne, ce qui la régit. Et après, on se spécialise au fur et à mesure dans les branches qui nous intéressent le plus. Je ne sais pas si c'est très clair comme explication.
Avez-vous pensé un jour à mener des projets en lien avec le quartier?
Oui, parce qu'on avait commencé du coup quand on était au collège et nos profs et aussi les CPE, aussi les pions qu'on avait à l'époque nous aidaient beaucoup à monter des projets et ça nous a du coup, ça m'a toujours beaucoup touchée et ça m'a toujours donné envie d'essayer de faire des choses à la Villeneuve. Donc je me souviens nous aussi on avait une petite radio à l'école des Charmes, c'était encore avant par exemple. Essayer de faire le lien, en fait, parce que ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens n'osent pas venir ou ne connaissent pas bien le quartier. Et donc, faire en sorte que des gens puissent y aller, mais aussi que les gens du quartier puissent sortir et aller voir d'autres choses.
Quelle est l'idée qui ressort, la fausse idée qui ressort le plus du quartier?
Les gens pensent vraiment que c'est un espèce de western, en fait. Je pense que c'est ça le pire. J'ai déménagé du coup en ville, j'habite à Grenoble en centre-ville. Moi je suis hyper triste de plus avoir un méga parc pour sortir le week-end quand il fait beau. Ne serait-ce que ça par exemple, c'est hyper dommage parce qu'il y a plein de choses. Il y a une vie culturelle aussi qui est folle, il y a des associations hyper cool ici. Et c'est dommage, il n'y en a pas forcément ailleurs.
Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'est la politique?
Qu'est-ce qu'est la politique? Vaste sujet. La politique, en simple, c'est s'intéresser un peu à la vie, Oui, c'est ça. C'est le fait de porter des idées sur la façon dont les gens doivent vivre ensemble ou la façon dont on doit penser l'école, ce genre de choses.
Quelle est l'importance de... C'est quoi la gauche et la droite ?
C'est quoi la gauche et la droite ? Alors, c'est deux grandes familles politiques françaises qui, contrairement à d'autres, dans d'autres pays, existent encore. Tu vois, il y a une différence entre la droite et la gauche. On peut dire que à droite, en général, on est... d'un point de vue, par exemple, économique, sur toutes les questions un peu financières, etc., on est très, très libéral, ce qu'on appelle libéral. C'est-à-dire qu'on est pour que les entreprises fassent un peu leur vie sans que l'État s'implique dedans. Et à gauche, on est plus sur des questions de société, donc vraiment qui concernent les gens, sur le partage, la solidarité, souvent, c'est ce qu'on dit, en tout cas, du clivage droite-gauche et l'égalité.
Et vous, quel est vraiment le métier que vous voudriez faire plus tard Vu que vous êtes étudiante en droit, pour vous, quel est votre métier que vous voulez atteindre à tout prix ?
Atteindre à tout prix ? Tu veux dire, c'est la conversation qu'on a eue tout à l'heure sur le métier que je voulais faire au début dans ma vie ? Alors, quand j'étais plus petite, du coup, avant de faire du droit, je voulais faire avocate, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le droit, c'était que l'idée qu'il y avait des règles qui étaient établies, et que ben, parfois il y avait des gens qui enfreignaient ces règles, qui ne les respectaient pas, et que tout le monde n'avait pas forcément la possibilité de pouvoir se défendre correctement. Et c'était l'idée de dire que ben, moi je voulais être avocate pour pouvoir défendre ces gens-là et les aider même quand c'est difficile pour eux.
Et est-ce que vous avez des frères, des sœurs
Oui, j'ai 4 frères et sœurs, j'ai 2 sœurs et 2 frères.
Et est-ce qu'ils s'intéressent aux études de droit ou...
Alors non, ils ont tous fait des choses très différentes. Ben, y en a 2 qui sont très petits. Il y en a un qui a 7 ans et l'autre, elle a 12 ans. Donc elle a votre âge, en fait. Elle est aussi en 6e comme vous. Et les deux autres font des études plutôt scientifiques. J'ai un petit frère qui est étudiant en pharmacie et l'autre qui prépare sa première année de médecine.
Donc vous nous avez dit tout à l'heure que vous voudriez faire un peu scientifique, vous nous avez dit.
Ouais.
Donc... Pourquoi vous avez voulu faire ça ? Et pourquoi vous avez changé ?
Alors, quand j'étais plus petite, ouais, je voulais faire même chimiste. J'ai voulu faire archéologue, égyptologue, plein de métiers cool. Et puis, plus je grandissais, plus je me suis rendu compte que même si j'aimais beaucoup la physique, la chimie et la SVT, je détestais les maths. Ce qui est problématique, du coup, quand on veut faire une carrière scientifique.
Parce que vu que c'est un petit peu relié...
C'est ça, c'est très, très lié. Et j'aimais aussi beaucoup les lettres, j'aimais beaucoup lire. Et je me suis finalement dirigée vers des études littéraires.
Est-ce que vous connaissez la série Scorpion ?
Ouais.
Ça parle en fait de plusieurs génies. Surdoués. Mmh. Surdoués. Vous pouvez nous décrire les personnages qu'il y a dedans ?
Les personnages qu'il y a dedans ? Alors, j'ai peur d'en oublier un, mais du coup, il y a une seule fille, c'est ça, et c'est rigolo parce que ce qui est étonnant, c'est qu'elle est fait de la mécanique, qui est un domaine plutôt réservé aux garçons habituellement, etc., et qu'elle est très très bonne dedans. Et t'as 3 autres scientifiques qui sont 3 garçons. Il y en a un qui est très 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 intelligent dans plein de domaines, un qui est très très fort en maths, et l'autre est très très fort en analyse du comportement humain.
Et il y a aussi une autre fille qui est donc qui n'est pas surdouée, mais qui vient aider l'équipe, c'est Paige. Ouais. Elle vient aider l'équipe quand même qu'ils restent normales et quand même que les faire devenir plus humains. Que...
Pour les intégrer à la société. Par exemple, le surdoué en tout, ben.
Walter.
Oui. Et ben, il aime pas, il ressent pas de sentiment.
Il ressent aucun sentiment et du coup, c'est ce que. Moi, je trouve que quand même chaque personnage est important dans la série.
Mais c'est intéressant parce que moi, tu vois, je fais pas la même lecture de. C'est pas qu'il ressent rien, c'est la question de. Enfin, pour lui, la vie, elle est. En fait, on a une société qui a des codes. Effectivement, et beaucoup dans l'actualité, on se pose la question de est-ce que ces codes ils sont valables encore ou pas, est-ce qu'il faut vraiment s'y fier tout le temps, etc. Et Walter, là, le personnage en question, c'est pas tant qu'il ressent pas les sentiments, c'est plus que lui, il se fie à des faits. On lui explique que la société, elle se déroule comme ça, et que les règles de vie, elles sont comme ça, mais il y en a certaines qu'il comprend pas. Des trucs un peu subtils que nous, on pourrait comprendre, comme le fait que les gens puissent être susceptibles, et que parfois on dit des choses qui peuvent être très vraies, mais qui risquent de vexer la personne qui est en face de toi.
Vous connaissez d'autres séries que vous aimez bien aussi ?
Qui sont en rapport avec les droits, par exemple, je sais pas, mais...
Alors les séries, parce que c'est surtout des séries américaines hein, qui font des séries un peu sur le droit et tout. C'est pas du tout comme le droit français. Ça ressemble pas du tout. On dit pas objection. Mais ouais, j'en regarde pas mal aussi, ouais.
Vous pouvez nous en citer deux, trois?
Il y avait Suits, qui est une série plutôt bien, qui suit la vie de deux avocats. Et c'est intéressant parce que aux États-Unis, au lieu d'aller au tribunal tout de suite, on fait beaucoup d'accords. Et donc cette série montre vraiment cet envers-là du décor, des accords avant d'aller au tribunal, parce que c'est coûteux et c'est long.
Vous pouvez nous dire un petit mot pour Radio Villeneuve?
Eh ben, vous souhaitez bon courage dans ce projet qui est hyper chouette. Et puis, merci pour l'invitation. Je passais un bon moment. C'était cool.
Merci beaucoup. Et la Radio Villeneuve vous remercie de nous avoir accordé du temps.
Et de vous avoir déplacé jusqu'ici.
Et d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Au revoir.
Voilà, c'est le genre de riche témoignage des mémoires et des histoires de vie qui crée l'identité de notre quartier. On va enchaîner avec la seconde pause musicale, la chanson « Qué grande es ser mujer » de Ariana Puello. Ariana Puello est une Catalane fière et rappeuse qui a émigré de la République dominicaine à ses 8 ans et qui officie dans le rap espagnol depuis déjà 20 ans. Assistée par Denoé, elle exprime ici son orgueil d'être une femme au-delà des difficultés rencontrées. Je vous laisse écouter « Qué grande es ser mujer » qu'il est magnifique d'être une femme d'Ariana Puello.
Don diri don don dari, aquí con Ari, montando Jari, qué grande ser mujer, Cari. Que si mujer, soy mujer, sé mujer, ser mujer es amor, amar es ofrecer, amar es dar la vida a una persona, amar es proteger, amar es defender a muerte tu zona, son las reglas, llorando no se arregla nada, es así, no merecerá la pena, tus penas máximas serán tus máximas penas, nena, dos en uno suenan, así, en primera persona, París es Asena, Ariana es a Gerona, divina de Noé Amazona, desde Vallecas se entrena, en escena, fuera de serie sería, en serio, en Dolby Surround en estéreo, oro y plata, negrata, entona, llevo un as en la manga, y otro en el tanga, no me vengan, no soy batanga, no se entretengan, tengan, no se anden por las ramas, hoy se estrenan, no unas más, este póker de damas, la mis y la más, quien da más, yo siempre quiero más, no quiero ser más que las demás, pero quiero mucho más, mucho, mucho más, por supuesto, molesto, a ver qué es esto.
Ah, el gusto es mío, que no es,
es un placer,
nadie nos quita, este don me encanta ser mujer.
El gusto es mío, cuello,
es un placer, nadie nos quita, este don que grande ser mujer.
Ariana pues, donde no es, como lo ves, o no es, vamos a ver. Ten cuidado con lo que dices. Hace tiempo que curé mis cicatrices. Se hicieron fuertes todas mis raíces. No pudieron conmigo las lombrices. Barrí, fregué, limpié hasta que me cansé. Me dije esto no puede ser. El mundo entero me lo puede comer. No pienso ceder, no me vais a joder. Porque soy una mujer autosuficiente. Me defiendo con uñas y dientes. Si hace falta nado contra corriente. No me importa lo que diga la gente. A mí que me respeten, si no mal rollete. Ridículo machista de mi lado vete. Dos en uno contigo a machete. Aquí tienes tu billete, premio.
Ay, el gusto es mío, que no es,
es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, pues
es un placer. Nadie nos quita este don, que grande ser mujer.
Ay, el gusto es mío, que no es,
es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío, pues
es un placer. Nadie nos quita este don, que grande ser mujer.
A mí me llamas por mi nombre, hombre. No me mires por encima del hombro. Suspendido ya septiembre. Hombre, olvídate de mi timbre, no te acostumbres, lárgate de aquí, pilla el saque, hombre, bye bye como KK, mi culo huele a mi yaque, no quiero chulos, busco un jeque, estás en jaque, ridículo, encoge tus testículos, qué grande es ser mujer en título.
Hay una razón para no patearte el culo, zorra, a las tías como tú, yo les doy camorra, toma, fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno, o no, qué grande ser mujer.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Aura des rues sur Radio Kaléidoscope. On va enchaîner avec notre invité du jour, son interview, le docteur Philippe Pichon, pour parler de l'actualité de l'AGEXA, l'association de gestion des centres de santé, association qui est matérialisée dans nos quartiers par la présence des deux centres de santé, notamment de l'Arlequin et des Géants. On va parler de ce qui lui arrive en ce moment, une certaine coupe et une certaine confusion autour des subventions de fonctionnement de cette association. Mais auparavant, on va un peu rappeler l'histoire très particulière de cette association et ce qu'on lui doit depuis déjà pas mal de décennies. Oui. Je vais te laisser conduire cette interview. Oui.
Qu'est-ce que c'est que l'AGEXA? D'abord, oui, les centres de santé, je crois qu'on peut dire qu'ils ont joué un rôle important dans l'histoire de la santé publique à Grenoble depuis les années 70. Hein.
Oui, la création en 1973 à l'Arlequin et puis son développement progressif sur plusieurs quartiers de Grenoble, les Géants, mais aussi le quartier Mistral, l'abbaye Jouot et puis aussi le dernier centre né en 1982 à Vieux-Temple, dans le centre-ville, à destination des publics migrants et maintenant des publics migrants âgés. Voilà, c'était cette histoire qui s'est déroulée en effet sur maintenant 44 ans.
Une petite antenne à Tesserre pendant un certain temps, pendant quelques années.
Oui, en 1980, je crois, naissance du centre, 81, naissance du centre de Tesserre, qui malheureusement, après une alternance politique déjà, a disparu en 84 ou 85, je ne me rappelle plus exactement.
Donc, à partir de quand est-ce que l'AGEXA s'est constituée donc, pour regrouper ces centres?
Alors,
est-ce qu'elle existait au début?
Non, au départ, ça s'appelait l'Association des centres de santé, l'ACS, qui a connu des difficultés financières dans les années 80, à la fin des années 80, début des années 90, je ne me rappelle plus exactement. Donc, dépôt de bilan et recréation dans la foulée de l'association de gestion des centres de santé, de l'AGEXA. C'était la continuité de son histoire, c'est les mêmes professionnels, les mêmes missions, avec simplement un cadre juridique un petit peu modifié à ce moment-là.
Il y a eu des services qui ont été supprimés parce qu'autrefois, il y avait des services radio ou des services...
Oui, ça, c'est le début des années 2000. Il y avait le service de radiologie au centre de santé de l'Arlequin. Là, c'était un choix de santé, puisque à ce moment-là, la clinique du Mail se développait avec un plateau technique extrêmement performant. Et pour nous, la nécessité, si on voulait suivre un petit peu, de faire des investissements colossaux qui n'avaient pas de nécessité, puisque la population avait un service de qualité, de proximité. On n'avait plus de raison d'être de ce côté. Là. Dans les années précédentes, dans les années 90, on avait aussi un laboratoire d'analyse médicale. Pareil, les standards de soins étaient modifiés. On a cessé cette activité de laboratoire et on a gardé simplement un centre de prélèvement, donc l'offre au public, cette capacité de rentrer dans les prises de sang, le suivi biologique et en collaboration avec la clinique mutualiste essentiellement. Donc toujours pareil, l'objectif c'est le service aux patients, les besoins des patients. Quand le besoin n'est plus là, on évolue. Et puis après il y a eu des créations plus tard dans les années 2000 avec notamment l'instauration d'un gros programme autour de la nutrition avec l'embauche de diététiciennes, de profs de sport adaptés, d'une psychologue. Tout ça parce que c'était un problème émergent qu'on avait identifié, notamment l'obésité pédiatrique et on s'est mis à développer une activité forte et à couronner plutôt de succès sur la prise en charge des troubles de l'alimentation, de l'obésité, etc.
Oui. Et est-ce qu'on peut évoquer là les statuts des personnels? Il y a un statut particulier?
C'est l'une des particularités qui est chez vous, c'est que vous n'êtes ni libéraux ni publics.
Oui, exactement. Un centre de santé, c'est un endroit où on exerce en pluriprofessionnalité, c'est-à-dire que différentes professions, médecins, médecins généralistes, médecins pédiatres, un psychiatre aussi, mais aussi des personnels paramédicaux, infirmières, kinés, orthophonistes, diététiciennes, profs de sport adaptés, j'espère que je n'oublie personne, mais tout ça autour du patient, dans ce qu'on appelle exercice coordonné, c'est que chacun travaille en bonne intelligence avec l'autre en faisant circuler l'information. Ça existe dans les centres de santé, mais ça existe aussi maintenant, depuis beaucoup moins longtemps, mais qui se développe beaucoup dans les maisons de santé pluridisciplinaires. Les centres de santé, on est salariés de notre structure. Tous les professionnels, notamment les professionnels de santé, sont salariés. Dans les maisons de santé, les professionnels sont des professionnels libéraux, rémunérés essentiellement à l'acte par rapport à leur activité de soins.
Là, la rémunération à l'acte, elle tombe dans la... La gestion commune.
Oui, tout à fait. Là, tout ce qui est généré par les consultations, donc les rencontres avec nos patients, le 23 euros pour l'instant, par exemple, qui va passer à 25 au mois de mai, ne revient pas du tout aux professionnels qui soignent. Elle revient à l'association. Ça rentre dans le pot commun de ce gros budget. Voilà. Et les salariés sont par contre rémunérés, ce qu'on dit, à la fonction, c'est-à-dire avec un salaire d'embauche qui évolue en fonction de l'ancienneté, comme dans la plupart des entreprises que chacun connaît.
Ça implique aussi que vous avez peut-être un fonctionnement beaucoup plus concerté entre vous. Vous avez parlé de réunions d'équipe assez régulières.
Oui, ça, on y croit très fort et depuis toujours. Hein, c'est qu'en travaillant à plusieurs, avec plusieurs regards sur une situation d'un patient, on est dans une qualité de prise en charge, dans une prise en charge ce qu'on aimera répéter, c'est-à-dire globale, qui prend en compte aussi bien les données médicales du patient, mais les données psychologiques, les données sociales. Donc, on est plusieurs professions à l'intérieur des équipes, mais aussi on essaye... Et ça, c'est un des gros efforts qu'il faut faire, qui consomme beaucoup de temps et donc des moyens de concertation donc avec les professionnels à l'extérieur, professionnels sociaux, les autres professionnels médicaux. Voilà, tout le réseau, le centre de santé s'inscrit toujours dans un réseau en interne, un réseau vers l'extérieur.
Dans tout un ça, quartier, limité au quartier ou...
Pas forcément, on construit le réseau en fonction de la nécessité et de sa performance. Sur des choses un petit peu rares, un petit peu pointues, on va être sur des dimensions d'agglomération ou de département, sur des choses, sur le social, sur ce qui fait lien des patients, on est beaucoup plus en effet centré sur la proximité, sur le quartier, là où habitent les personnes.
Oui, par exemple, vous aviez un certain nombre de conventions avec un certain nombre de structures, vous avez parlé peut-être du CODAS. Ou...
Voilà, on a depuis longtemps cette collaboration avec un certain nombre d'associations, de structures, d'institutions et on a formalisé tout ça depuis quelques années pour bien préciser le rôle de chacun avec le CODAS sur les problèmes de l'enfance, avec Rome Action sur les publics migrants d'origine Rome, avec la PASS qui est le dispositif d'accès aux soins pour les gens sans droit au CHU, etc., etc. On essaye de formaliser tout ça pour que les choses soient tout à fait claires dans un but de clarté et de transparence par rapport à nos financeurs, bien sûr, mais aussi pour rendre le lien plus performant, plus efficace pour le patient et pour l'ensemble des professionnels qui interviennent autour du patient.
Et pour rester dans une priorité faite à la prévention.
Oui, voilà, j'allais en parler.
Ah, pardon.
La prévention, oui.
Ok. Vous avez un mot d'ordre qui est axé sur la prévention.
Oui, pour nous, la santé, elle est globale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de soigner, de réparer ce qui est cassé, mais c'est d'essayer de faire en sorte que les gens aient moins de problèmes de santé. Ça s'appelle la prévention, hein, une prévention primaire avant que tout problème de santé apparaisse. Ce sont toutes les questions de dépistage, mammographie, frottis, dépistage des cancers de l'intestin, par exemple. C'est la vaccination, bien sûr. Puis aussi, ce que nous, on appelle la prévention secondaire, c'est qu'une fois que les personnes sont rentrées dans une pathologie, c'est faire en sorte d'éviter qu'elles se complexifient, qu'elles s'aggravent, qu'elles récidivent. Et là, la prise en charge, elle est sanitaire, mais elle est aussi sociale. C'est faire en sorte que les conditions de vie soient améliorées pour garantir une meilleure santé au sens global du terme, hein, médicaux, psycho, social, tout ça est lié.
Et au niveau du public auquel vous adressez, on ne demande pas des statistiques, mais quand même au niveau du volume de...
Alors,
de patients ou de...
Oui, la GECSA, c'est 5 centres, je l'ai dit tout à l'heure, c'est presque une centaine de professionnels, de salariés, et tout ça, c'est à la destination de plus de 19 000 patients. L'année dernière, là, en 2016, on a soigné plus de 19 000 personnes sur les secteurs de Grenoble et des communes environnantes. Ça fait à peu près 90 000 consultations médicales, 60 000 actes infirmiers. Voilà quelques chiffres pour illustrer le volume et l'importance de cette offre de santé sur le département de l'Isère.
Oui, il y a le problème des centres de santé a été évoqué par ailleurs, je crois, sur Radio Kaléidoscope, hein, et en particulier, on parlait du comité des usagers, qui peut-être qu'on peut rappeler ce que c'est que ce comité.
Le comité des usagers, c'est une association qui structure les usagers, le terme est consacré, c'est-à-dire ces personnes qui viennent se faire soigner dans nos 5 centres et qui, depuis de très nombreuses années, se sont réunies pour défendre le centre de santé, pour promouvoir cette idée du soin et de la prévention réunie. Et c'est dans ces moments un petit peu difficiles sur lequel on va revenir tout à l'heure, c'est cette caisse de résonance de ce que les décisions politiques font à la population et qui vient soutenir les professionnels, non pas pour le bénéfice des professionnels, mais pour le bénéfice des populations et des quartiers. C'est structurer la parole de tous ces usagers qui bénéficient de nos structures.
Concrètement, par exemple, le centre de santé de la Villeneuve, est-ce qu'il y a des patients qui viennent d'autres quartiers, qui viennent en particulier du village olympique, puisqu'il n'y a pas d'autres centres ici?
Oui, alors je n'ai pas de chiffres tout à fait précis, mais on a des patients qui viennent bien entendu du village olympique. On a des patients qui ont habité le village olympique ou la Villeneuve, on en parlait tout à l'heure dans cette interview, et qui sont partis ailleurs, dans d'autres quartiers de Grenoble, qui continuent à venir nous voir. Il y a aussi les gens sur d'autres quartiers, des Chirolles, de Saint-Martin-d'Hères, qui tout naturellement ont entendu parler de nos centres et viennent aussi. On reste essentiellement en proximité dans nos quartiers, mais on s'ouvre à toute la ville et aux communes environnantes, notamment celles de la métropole.
On va faire une petite pause au cœur de cette interview pour rediffuser un extrait de notre fameuse rubrique des blédards de la Villeneuve, organisée avec l'association La Rue Tabaga, où des adolescentes du quartier avaient visité et interviewé une secrétaire du centre de santé des Géants. C'est aussi une manière de voir comment le centre de santé est implanté et vit quotidiennement dans nos quartiers.
Les blédards de Villeneuve. Les blédards de Villeneuve. Les blédards de Villeneuve. Les blédards de Villeneuve. Notre radio s'appelle Les blédards de Villeneuve.
On a l'air sage, nous les enfants sages, mais méfiez-vous
du carnage.
On a l'air sage, nous les enfants sages, mais méfiez-vous
de la rage.
On a l'air sage, nous les enfants sages, mais méfiez-vous.
Hey tout le monde. Bonjour, nous sommes Eline et Amira de Radio Kaléidoscope. Donc là, on va interroger le centre de santé des Géants. Allez, c'est parti. Donc j'espère que ça va vous plaire et on va prendre l'ascenseur.
Il fait trop peur.
Finalement, on va prendre les escaliers. Mais par contre, faut pas faire de bruit parce que là-bas, c'est très calme. Et donc, voilà. Donc on va parler doucement. Et après, on va hausser la voix.
Bonjour, ça vous dérangerait pas de vous qu'on vous pose 2-3 questions?
Et en fait, on voudrait poser quelques questions, si ça vous dérange pas, sur Villeneuve et sur votre métier.
Allez, sur mon métier, je peux parler, il n'y a pas de souci.
Pourquoi vous avez choisi ce métier?
Parce que mes études m'ont amenée à être secrétaire médicale, et puis finalement j'ai essayé, et puis ça me plaisait, alors je suis restée secrétaire médicale.
Et est-ce qu'au début de vos études, vous pensez finir en secrétaire médicale?
Non, je voulais devenir maîtresse d'école.
Vraiment différent, à l'opposé.
Complètement opposé.
Qui vous a entraîné à faire ce métier?
Okay. Eh bien, l'école. Le collège, et puis après le lycée, et puis voilà.
Combien de temps avez-vous travaillé?
Ça fait 25 ans que je travaille ici.
25 ans? Ah ouais, quand même. Quand voudrez-vous vous arrêter?
À la retraite.
On a aussi posé des questions à certains kinés, ils nous ont dit pareil à la retraite, parce que apparemment tout ce qui est médical, ça fascine beaucoup de gens.
Oui.
Mais il y a un truc que je me suis toujours posé, comment en fait vous gérez tout ça, enfin, parce que il y a quand même assez de pression dès qu'on vous dit faut vite faire les papiers, est-ce que je peux vite avoir un rendez-vous, je suis pressée, patin, couffin.
Je suis habituée à toutes ces demandes. Et puis comme ça fait longtemps que je fais ce métier, maintenant je sais quoi répondre. Et puis je ne suis pas toute seule ici. Il y a les docteurs avec qui je travaille, il y a les infirmières, il y a l'orthophoniste. Donc je ne suis pas toute seule au travail.
Et est-ce que vous avez une relation sereine avec vos collègues et les médecins?
Oui, c'est pour ça que j'aime travailler.
Okay. Ici. Donc vous n'avez pas de problème, vous n'êtes pas tendu.
Non.
Ça vous arrive des fois le matin de vous relever, de pas trop envie d'aller
du pied gauche en gros.
Voilà, de vous réveiller
comme
du
toi.
Pied gauche.
Est-ce que toi le matin t'as toujours envie d'aller à l'école?
Non.
On est bien d'accord. Donc moi des fois j'ai pas très envie, mais une fois que je suis là, et ben écoute, je suis levée pour toute la journée. Hein.
Quelle est votre journée la mieux réussite et quelle est votre journée la moins bien réussite
dans toute votre carrière?
La mieux réussite,
celle que travail. Vous, oui, celle que vous avez redoutée le plus et qui est arrivée au jeu, qui est arrivée.
Et ben des fois j'ai un petit peu peur que les gens soient pas très contents et puis qu'ils s'en prennent un peu à la secrétaire. Alors qu'elle fait son travail le plus sereinement. Mais après, je m'adapte. On va dire que tous les jours sont différents. Il n'y a pas un jour mieux qu'un autre, ça va. Tous les jours sont différents.
Merci. Donc, merci beaucoup. Et j'espère que ça va rendre heureux de savoir que le métier de secrétaire, ça peut leur booster et ça peut leur plaire.
Oui, il faut aimer le contact avec les gens. Et je crois que si on aime parler avec les gens, si on aime prendre soin des gens, ça peut être qu'un beau métier.
D'accord, merci beaucoup, au revoir.
Ici, on ne trouve pas les mots. Ici, on a du chocolat chaud. Venez tous, ce soir, c'est gratuit. Et sur la musique, des bacs.
Boum, 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 boum.
Bon, après ce joli enregistrement qui a été fait il y a peut-être un an et qui montre bien... le quotidien dans les centres de santé. On va enchaîner avec une pause musicale où on va retourner dans l'art de la reprise et aussi de la grande poésie, celle qui n'a pas peur de se tacher ou de ruer dans les brancards, avec la reprise de Thank You Satan, un texte de Léo Ferré, mais là repris de manière rock par Dionysos. Je vous laisse écouter.
Que tu allumes au creux d'un lit, pauvre ou rupin, pour le plaisir qui s'y consume, dans la toile ou dans le satin, pour les enfants que tu ranimes au fond des dortoirs chérubins, pour les pétales anonymes comme la rose du matin. Thank you, Satan, pour le voleur que tu recouvres de ton chandail tendre et rouquin, pour les portées que tu lui ouvres sur la tanière des rupins, pour le condamné que tu veilles à l'abbaye du Mont en l'air, pour le rhum que tu lui conseilles et le mégot que tu lui sers. Thank you, Satan, pour les étoiles que tu sèmes dans le rebord des assassins, et pour ce cœur qui va quand même dans la poitrine des putains, pour les idées que tu maquilles dans la tête des citoyens, pour la prise de la Bastille, même si ça ne sert à rien.
Qui s'exaspère à retrouver le doux agneau, pour l'épinard élémentaire qu'il prend pour du château Margaux, pour l'anarchiste à qui tu donnes les deux couleurs de ton pays, le rouge pour naître à Barcelone, le noir pour mourir à Paris. Thank you, Satan. Thank you, Satan.
pour la sépulture anonyme que tu fis à Monsieur Mozart, sans croire ni rien sauf pour la frime. Un chien croque-mort du hasard pour les poètes que tu glisses au chevet des adolescents, quand pousse dans l'ombre complice des fleurs du mal de 17 ans. Que tu fais naître au sein des plus raides vertus, et pour la nuit qui va paraître au coin du lit où tu n'es plus, pour les ballons que tu fais pète dans la frais comme des moutons, pour ton honneur à ne paraître jamais dans la télévision. Pour tout cela et plus encore, pour la solitude des rois, le rire à la tête de mort, le moyen de tourner la loi. Et qu'on ne me fasse pointer et que je chante pourtant bien. Dans ce monde où les muselières ne sont plus faites pour les chiens. Thank you, salon. Il y aura des bugs. Thank you, Saddam. You'll make me burn man. Thank you, Saddam. Thank you, Saddam. Thank you, Saddam. Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Aura des Rues sur Radio Kaléidoscope. On va poursuivre avec l'interview du docteur Pichon. D'ailleurs, là, on avait entendu une brève interview, rencontre des ados du quartier avec l'une des secrétaires de la GECSA. Et ça vous avait inspiré?
Oui, ça me donne envie de reparler du travail des secrétaires dans les centres de santé. Hein. C'est un job fantastique. C'est pour nous vraiment l'interface entre nos patients, la vie, le quartier et notre activité médicale. Elles ont un rôle de pivot fantastique, un rôle de relais en termes de prévention, d'accès aux soins, d'accès aux droits. C'est vraiment une pièce maîtresse des centres de santé.
Et elles ont tendance à inspirer confiance?
Elles inspirent confiance, elles rassurent les patients, elles nous rassurent, nous aussi, les toubibs, parce que quand nos secrétaires nous disent que les choses sont sérieuses, qu'elles ont perçu quelque chose, elles se trompent rarement. Quand elles sentent une détresse chez les personnes, il y a quelque chose qu'il faut vraiment entendre. Non, c'est vraiment des grandes professionnelles et qui apportent un énorme bénéfice à notre structure et à la population.
On va parler de ce qui fâche un peu en ce moment, c'est-à-dire
Je vais
laisser introduire
l'annonce de la baisse de subvention du conseil départemental au centre de santé. Hein. Donc, on a parlé de 70% de la subvention qu'ils accordaient au centre de santé.
Oui, ça fait des dizaines d'années que aussi bien la ville que le département soutiennent les centres de santé au bénéfice des populations dont ils sont les élus. Et puis, on savait qu'il y aurait des petites diminutions, on s'y préparait. Et si bien que fin de l'année, en novembre, les élus représentés dans notre conseil d'administration, les élus du département, avaient voté un budget où ils réduisaient de quelques pourcents la subvention. Et quelques semaines plus tard, au mois de février, au lieu des 525 000 euros annoncés, promis pour l'année 2017, nous tombe le chiffre de 156 000, ces fameux 70% de baisse, de façon non concertée, brutale, annoncée par les techniciens, non assumée par les politiques qui ont pris cette décision, sans capacité de venir expliquer, échanger avec nous. On est très surpris, un peu en colère, cet sentiment un peu de mépris, puisque nous avions essayé depuis des mois de rentrer en contact avec eux, leur expliquer la situation des centres de santé, leur mission.
C'était pas possible?
Non, on a téléphoné, envoyé des mails, pris des contacts de toutes sortes. Les élus en charge de notre association nous avaient donné une fin de non-recevoir. Donc la décision, elle est injuste à ce titre-là et on a besoin d'explications. On veut absolument reprendre contact avec eux pour qu'on se comprenne et qu'on prenne une décision en faveur de l'association et évidemment de la population.
Oui, donc il y a un mouvement qui a été créé. oui, à partir de l'équipe, les équipes des centres de santé.
Oui, les premiers à réagir ont été les usagers qui ont lancé une pétition que chacun peut signer dans les secrétariats des centres de santé, puis une pétition en ligne sur le site avaz.org, et qui à ce jour, au bout de quoi, une petite dizaine de jours, on est à plus de 4600 signatures. Ça, c'est les usagers qui se sont lancés, hein, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, c'est une pièce maîtresse pour nous.
Avaz. avaz.org.
Et puis, où vous retrouvez les coordonnées sur le compte Facebook de la GECSA. Et puis après, ce sont les salariés aussi qui se sont manifestés, qui ont réagi. On a déjà fait deux assemblées générales. On a manifesté deux fois, une la semaine dernière, une fois vendredi 14, pour essayer de se faire entendre, se faire comprendre et reprendre ce contact, cette négociation avec les élus du conseil départemental.
Il y a eu des articles dans tous les journaux, des émissions de radio.
Pour l'instant, on est plutôt soutenu. Hein, oui, Kaléidoscope a largement répondu à notre appel. On a France 3 est passé nous voir, Bleu Isère est passé nous voir. On a eu un article dans l'Humanité, on a eu un article dans Dauphiné Libéré. Voilà, la presse est sensible à ce sujet puisque c'est un sujet qui concerne tout le monde. De société, la santé, c'est une pièce maîtresse pour tous.
Et puis aujourd'hui, il y avait une mobilisation appelée à midi, 11h30, auprès du conseil départemental.
Voilà, on est allé rencontrer le département, on a manifesté salariés et usagers unis, nombreux, pour se faire entendre.
Et il y avait un appel à la population
général. Oui. Tout le monde était les bienvenus, grenoblois, non-grenoblois, population des quartiers concernés, mais population de toute la métropole.
Et en cas de baisse effective du budget de la GECSA, vous nous parliez de priorité axée vraiment sur garantir le soin auprès des...
Oui, je pense que là où on ne lâchera pas, c'est évidemment sur le soin quotidien à la population, je mets des guillemets, à nos patients, hein, ceux à qui on se doit de toute façon. Le risque, c'est sur la question de la prévention, parents pauvres de la santé publique, c'est la question de la coordination, ce dont on parlait tout à l'heure, ce temps nécessaire et qui nous paraît, pas qu'à nous, puisque ça a été démontré dans de nombreuses études, coordination, de concertation, au bénéfice des patients, au bénéfice de la santé et des finances publiques.
Et à long terme, la prévention, ça coûte moins cher.
Évidemment, à long terme. Ça coûte moins cher, mais ce n'est pas le même tempo et ni les mêmes poches que les politiques qui sont en charge actuellement.
Il va être temps de conclure cette émission. On rappelle la pétition à retrouver notamment sur Internet, sur avaz.org, A-V-2-A-Z, ainsi que dans les centres de santé près de chez vous.
La page Facebook, c'est Centre de santé de Grenoble,
c'est
AGECSA.
Je crois que c'est AGECSA le nom de
notre... Seulement AGECSA,
oui. Crois. Il faudra vérifier. Malheureusement, je n'ai pas ça en tête.
Sur ma formule consacrée, ce n'est qu'un au revoir. On va vous retrouver avec une nouvelle émission dans 15 jours. D'ici là, il y aura des rediffusions. Les mercredis de 11h à midi et le vendredi de 19h à 20h. Nous vous souhaitons de belles semaines, malgré ces difficultés. Au revoir.
Au revoir.
Merci à tous.
C'était Au ras des rues, l'émission qui, espérons-le, vous a fait prendre de la hauteur sur Radio Kaléidoscope 97 FM. À la prochaine.